réalisable grâce au studio derrière des micros.
Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième podcast d'Au cœur de la jeune chambre. Je me présente Raphaël Pepin du 106.9 Mauricie, la radio à Trois-Rivières. Ça fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un autre podcast. Et j'ai avec moi les gens de MNP. Alors on va saluer Jean-Raymond Lafont et également Stéphanie Labrec. Bonjour à vous deux.
Au cœur de la jeune chambre de la Mauricie.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, et toi?
Ben oui, ça va super bien. Alors, merci beaucoup d'être avec nous pour ce podcast numéro 4. Alors, expliquez-nous, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, là, qu'est-ce que MNP et qu'est-ce que vous faites chez MNP? Je vais commencer, évidemment, par les femmes d'abord.
Oui, alors moi, je suis Stéphanie Labrec. Je travaille chez MNP dans le département de services conseil, tout comme Jean-Raymond. Moi, je suis spécialisée davantage en évaluation d'entreprise, qui va être le sujet qu'on va vous parler aujourd'hui, là, notamment. Donc, ça fait 4 ans là, que je suis en service conseil maintenant. La certification, dans le fond, d'expert en évaluation d'entreprise pour ceux qui connaissent ça. Là.
OK, parfait. Et Monsieur Lafont, vous faites quoi exactement?
Moi aussi, je suis comptable de formation en charge de l'équipe de financement d'entreprise. Beaucoup de mandats spéciaux. Ce qu'on voit beaucoup, c'est de l'achat-vente d'entreprise, du financement, des dossiers de relève, donc puis l'évaluation là, qu'on va parler aujourd'hui.
Parfait.
MNP en fait un bureau de comptable à la base, canadien, très, très présent au Canada, plus de 25 bureaux au Québec, le marché de la PME principalement.
OK, parfait. Alors, évidemment, avant qu'on embarque, comme je le disais, dans le vif du sujet, on est dans les locaux de la Shop, magnifique endroit pour enregistrer ce podcast. Et il y a justement Charles, notre ami maintenant, qu'on pourrait dire, qui est propriétaire de la Shop, qui va nous servir un petit peu d'alcool cet après-midi pour évidemment délier les langues et continuer à se parler.
Yes, bien bonsoir à tous. Donc, ce soir, je vais vous faire goûter à une sour. Il y a deux grands styles très populaires au Québec. Il y a les IPA, bien sûr, et les sour, une sour qui vient de la microbrasserie à l'affût à Saint-Tite. Donc, on a la cassure. C'est vraiment un produit très populaire. Ils ont plusieurs styles de cassure, mais la cassure aux framboises, c'est la plus régulière et la plus populaire, bien sûr. C'est une saison sûre. Les saisons, c'est des bières belges de style blonde. Donc, ça ne sera pas une blanche, ça va être vraiment une blonde. Puis, pour rendre un style sûr, souvent, on fait l'ajout de bactéries lactiques, d'acide lactique ou de Brettanomyces. Donc, on va avoir une sour légèrement épice belge qui va ressortir en finale, puis un bon côté framboise. Bien sûr, vous allez voir dans la couleur, là, c'est vraiment génial.
Alors, merci beaucoup à Charles et je répète, magnifique locaux de la Shop, ceux qui veulent venir faire un tour. Là. Est-ce que vous êtes des fans de bière?
Oui.
Oui, effectivement. Donc, quelle sorte particulièrement les Indian Pale Ale, les sour? En connaissez-vous un petit peu que vous aimez particulièrement?
Mais moi, le sour, ça va être tout nouveau pour moi, en fait. Okay. Fait que c'est un test cet après-midi. Très traditionnel, un comptable. Donc, une bonne bière blonde, habituellement, c'est...
Certainement.
C'est ce que je consomme le plus souvent.
Ben, ça se prend très bien, en plus, un vendredi. Donc, pendant que Charles nous verse justement là, la sour, j'ai le goût de commencer tout de suite avec le premier thème qu'on va aborder avec vous aujourd'hui, les gens donc d'MNP. On va se parler, évidemment, de la valeur d'une entreprise et comment calculer, justement, cette valeur-là. Expliquez-nous donc, comment on procède chez MNP? Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui voulait commencer d'abord, il n'y a pas de problème.
Oui, je peux commencer.
Vas-y, Stéphanie.
Parfait, puis Jean-Raymond va compléter au fur et à mesure. Alors, premièrement, pour expliquer un peu dans quel contexte qu'on fait des évaluations d'entreprise, parce qu'on en fait dans des contextes très variés chez MNP. On fait des évaluations dans des cadres d'achat-vente d'entreprise. On peut faire aussi des évaluations dans des cadres fiscaux davantage, là, donc quand il y a une réorganisation fiscale, un gel... quand il y a aussi des transferts, donc entre apparentés, par exemple, un père qui vend son entreprise à son fils, c'est important au niveau fiscal de transiger à la juste valeur marchande. Donc, il faut être capable, là, en mesure de prouver ça. Alors ça, c'est un contexte aussi où est-ce qu'on va faire beaucoup d'évaluations. Aussi dans des conventions entre actionnaires, parfois, dans des contextes comme ça, dans des contextes de litige, de divorce aussi, qui sont un peu moins agréables, mais il y en a aussi. Donc ça, c'est tous les contextes dans lesquels on peut faire de l'évaluation. Sujet qui est d'actualité en ce moment, c'est le nouveau projet de loi C-108. En fait, ce projet de loi-là, en ce moment, ça va apporter une modification à la loi de l'impôt afin de faciliter les transferts intergénérationnels. Donc, comme on parlait tantôt, transfert de père à enfant ou autre, là, ça va venir réduire l'impôt à payer au niveau des transferts, puisque autrefois, l'exonération pour gain capital s'appliquait pas dans ces cas-là. Puis là, maintenant, ça va être possible, là, sous réserve de plusieurs conditions, évidemment, de s'appliquer. Pour ça, par contre, il faut qu'il y ait une documentation, donc une évaluation qui est faite par un expert indépendant. Donc, c'est là où notre équipe va venir en ligne de compte là, pour faire ce genre d'évaluation.
OK. Et si M. Lafond veut compléter, par exemple, je me prends à titre d'exemple, justement. Je veux évaluer la valeur de mon entreprise. J'ai eu, justement, une passation dans la famille. Chez MNP, comment on m'accompagne là-dedans? Quelles sont les étapes exactement?
Oui, excellente question. En fait, la première chose, en fait, c'est de se rencontrer, de voir quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes. Il faut vraiment comprendre, parce qu'il n'y a pas une entreprise qui est pareille. Faut vraiment voir le secteur d'activité, voir la rentabilité. Donc, la rentabilité, c'est un élément important. On va parler beaucoup tantôt comment on détermine la valeur d'une entreprise. Mais il faut vraiment l'adapter à ton secteur, à ton entreprise, particulièrement à toi, puis ça évolue aussi au fil des années. Donc, en fonction de différents critères.
OK, parfait. Et revenons à Mme Labrecque. Donc, pour ce qui est là, de l'évaluation d'une entreprise, bon, on parlait tantôt là, de la valeur de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement la valeur? Comment on la définit?
Oui, donc la valeur d'entreprise, comme on a mentionné certains contextes dans lesquels on évalue l'entreprise, ce qui est important de dire, c'est que beaucoup de ces contextes-là dans lesquels on fait une évaluation théorique, c'est-à-dire qu'on va pas vraiment mettre l'entreprise en vente sur le marché. Donc, nous, ce qu'on fait en tant qu'évaluateur, c'est qu'on évalue la juste valeur marchande de l'entreprise. Donc, ça serait quoi le prix théorique si on mettait l'entreprise en vente sur le marché qu'on pourrait espérer recevoir? Ce serait quoi le prix le plus élevé si on transigeait là, entre un acheteur et un vendeur qui n'ont pas de lien de dépendance sur le marché, dans le fond? Donc, c'est ça qu'on vient faire. Nous, on a plusieurs méthodes d'évaluation aussi, dépendamment du type d'entreprise, dépendamment de la rentabilité aussi de l'entreprise. Il y a trois grandes familles, là, si on veut, d'approches d'évaluation. Il y a une approche qui est plus par les actifs, quand on parle de société immobilière, de société de placement, de société de gestion. On va plus être là-dedans parce que pas nécessairement, la valeur dépend vraiment des actifs et de leur valeur, et pas nécessairement, il y a pas vraiment d'achalandage dans ces contextes-là, d'achalandage commercial. On a une méthode, comme Jean-Raymond disait tantôt, qui est beaucoup axée sur le rendement de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la méthode principale quand on a une société opérante. Ce qu'on veut déterminer, c'est quoi le rendement de cette entreprise-là. On entend souvent parler de BAIA, qui est le bénéfice avant intérêt impôt amortissement. Donc c'est ça qu'on veut venir voir. On a deux manières de le faire. Parfois, si on regarde une start-up, par exemple, une entreprise qui n'a pas beaucoup d'historique, qui commence, qui a 2-3 années d'histoire, qui commence à avoir de la croissance dans ses ventes, on va y aller avec une méthode plus basée sur des projections financières. Donc, on va regarder l'entreprise à quelle croissance elle pense générer, où elle pense être dans 3 à 5 ans, par exemple, puis quelle rentabilité elle pense avoir. On va analyser toutes les hypothèses en lien avec ça, regarder l'industrie aussi, qu'est-ce que ça dit. On va être plus dans ce genre de méthode-là. Alors que, par exemple, si on évalue des sociétés qui ont beaucoup d'historique, qui sont assez stables, qui sont matures, en fait, là, on va plutôt se baser sur une méthode où est-ce qu'on va regarder l'historique de la société, donc ses états financiers passés, le bénéfice qu'elle est en mesure de dégager. Puis, en fait, le but, là, c'est en évaluation, on regarde c'est quoi la valeur prospective. Donc, on évalue à une date donnée. La valeur, ça évolue dans le temps, évidemment. Donc, la valeur que j'ai au 31 décembre 2019 sera peut-être pas la même que, probablement pas la même, en fait, qu'au 31 décembre 2020. Puis, on regarde la valeur là, d'un point de vue prospectif. Qu'est-ce qu'on pense que l'entreprise va générer?
OK. J'ai une question en lien avec l'actualité, puis je veux pas que ça soit trop tricky, là, comme on dit. Il y a une surchauffe immobilière actuellement dans le domaine, justement, de l'immobilier. Par exemple, quand on parle des entreprises, est-ce que ça existe aussi? Par exemple, qu'on veut mettre une entreprise en vente sur le marché, est-ce que, dépendamment du prix, s'il est très bas ou très haut, ça va varier justement avec mon entreprise à moi?
Oui, une excellente question. On dirait que tu avais lu ce que je voulais mentionner. Mais en fait, juste avant de répondre à ta question, oui. En fait, puis c'est pour aller là, il y a une différence entre la juste valeur marchande puis le prix. Parce que dans le fond, c'est que le prix que quelqu'un va être prêt à payer, puis l'exemple de la maison, c'est le meilleur exemple qu'on voit actuellement. Il y a vraiment une surchauffe du marché immobilier. On pourrait avoir un immeuble résidentiel, une maison à 300 000 $ mais on reçoit des offres. Donc, il y a un évaluateur qui veut l'avoir évalué à 300 000 mais le vendeur reçoit des offres à 310, 315, 325 $ parce que le marché est vraiment surchauffe. Donc, le prix qui va être payé va être supérieur à la juste valeur qu'un évaluateur va avoir évalué. Au niveau des sociétés, c'est la même chose. Donc, on a une évaluation, comme Stéphanie a mentionné, avec plusieurs méthodes qu'on analyse. Puis la valeur, elle est théorique dans un contexte vraiment parfait. Arrive une transaction, donc le prix qui va être payé. Donc, est-ce que je suis en manque de relève? Est-ce que je suis près de la retraite et j'ai pas de relève? Donc, l'acheteur va négocier un prix plus bas. Mm-hmm. Ou c'est le contraire, je suis vraiment d'actualité, je produis des articles médicaux, on en a vraiment besoin. Donc, il y a 2, 3, 4, 5 acheteurs qui sont prêts à m'acheter. Il va y avoir une surenchère sur mon entreprise. Donc, le prix va être plus élevé que la juste valeur parce que la personne va vouloir payer des synergies, des économies d'échelle avec son entreprise.
OK. Donc, ce qui veut dire, qu'est-ce qui, autre que, par exemple, cette surchauffe-là, peut influencer le prix d'une entreprise, donc le prix de vente? Est-ce que c'est, par exemple, les membres dans l'organisation? Est-ce que c'est, je sais pas moi, la longévité de l'entreprise dans le temps? Qu'est-ce qui peut déterminer aussi la valeur nette de l'entreprise? Ouais. Si je m'exprime bien, je suis pas non plus calé dans le domaine, là.
Non, c'est une excellente question. En fait, il y a plusieurs éléments, puis il n'y en a pas un qui est le même à chacune des entreprises, mais tes exemples sont là. Quelqu'un qui a des contrats à long terme avec ses clients, donc en bon français, qui va avoir du repeat business, qui va revenir souvent, donc je vais être prêt à payer plus cher pour ça parce que ce que j'ajoute, c'est les profits à venir quand on fait une transaction. Donc, si j'ai des contrats qui sont là à long terme, bien, je vais être plus intéressé. Quelqu'un que sa clientèle, elle recommence à chaque année, il faut toujours qu'il recommence, bien là, je vais payer un petit peu moins cher. Quelqu'un qui est vraiment, qui a beaucoup d'employés actuellement, puis qu'on voit qu'il y a un manque de ressources humaines un peu partout. Donc, s'il y a des employés qui sont non productifs ou qui sont disponibles, je vais peut-être payer un petit peu plus cher pour aller chercher ces employés-là. Donc, les facteurs sont très, très nombreux qu'on peut voir. Là.
OK. Et si Mme Laberge veut compléter, là, par exemple, est-ce que le nom de l'entreprise, donc, je ne voulais pas dire le prestige, mais l'espèce de background que l'entreprise, ça aussi, j'imagine que ça peut influencer. Là.
Oui, bien, c'est important de dire, en fait, là, on a parlé des chiffres, des méthodes, mais c'est certain qu'il y a un aspect très qualitatif aussi à l'évaluation. Donc, il faut regarder l'entreprise, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses opportunités pour l'avenir, ses perspectives, c'est quoi aussi les menaces auxquelles elle fait face, la compétition, tout ça. Donc, tout cet aspect-là qui est très qualitatif, là, qui est très clientèle, background, historique, ça fait combien d'années qu'elle est en exploitation, est-ce que c'est stable? Y a beaucoup d'éléments qualitatifs qu'on va venir regarder. Donc, on parle de l'analyse FFOM, c'est quelque chose un peu qu'on fait, là, une analyse force-faiblesse, opportunité, menace, parce que ça, ces éléments-là, la réputation, tout ça, ça va venir influencer directement le multiple qu'on va choisir. Puis ce multiple-là a une influence directe sur la juste valeur marchande à laquelle on arrive. Donc, pour répondre à la question, ces aspects-là ont certainement une grande importance là aussi en évaluation.
Je suis content parce que le contexte plutôt le concept de FFOM, je l'avais appris dans mon baccalauréat, alors j'ai tout de suite compris qu'est-ce que vous vouliez dire. Non, mais des fois, le monde de la comptabilité, ça peut paraître complexe. Donc, c'est important justement de faire ça aujourd'hui avec vous. J'aimerais ça qu'on parle de la dernière année, ce qui s'est passé avec la COVID au niveau justement de la vente des entreprises, la valeur, les transactions qu'il y a eu sur le marché. Je peux peut-être demander la question à M. Lafond. Comment ça s'est passé? Comment on a vécu ça sur le marché des entreprises?
Oui. La COVID est arrivée début mars 2020, pas besoin de rappeler la date, mais tout ce qui était en cours comme transaction, on a senti une pause qui s'est faite à ce moment-là parce qu'il y avait une incertitude sur le marché. Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que les entreprises allaient continuer, allaient passer au travers ou pas? Donc, les premiers mois, vraiment une pause qui s'est passée. Par la suite, les subventions gouvernementales ont été mises en place, les programmes d'aide qui ont été là. Puis les entreprises ont quand même bien été, pour la majorité, c'est sûr qu'il y en a qui sont en difficulté, on ne se le cachera pas, mais ça a quand même bien été. Fait que le marché a repris vers l'automne 2020. Les multiples qu'on parle depuis tantôt là, en valeur d'entreprise, donc se sont maintenus, même légèrement à la hausse, en fait, je dirais là, qu'il y a de plus en plus de transactions. Les entreprises, pendant les premiers mois de la pandémie, ont épargné beaucoup, donc ont réduit leurs dépenses. Donc, se sont trouvées très liquides, donc avec beaucoup de liquidités pour faire des projets d'investissement. Les taux d'intérêt sont très, très bas actuellement. Donc, ça favorise beaucoup les transactions. Donc, dans les derniers mois, là, il y a une effervescence, puis le côté transactionnel est très, très actif.
OK. Question complémentaire pour…
Oui, ben en fait, je peux compléter aussi. En fait, ça a été intéressant de voir parce qu'au début de la crise, beaucoup s'attendaient à peut-être qu'il y ait des transactions un peu de détresse, des transactions avec des gros escomptes, par exemple, là, si les entreprises avaient beaucoup de difficultés. C'est pas vraiment quelque chose qui a été vu parce que les mesures gouvernementales ont été… de manière générale, très efficace à garder les entreprises à flot. Là. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est vu comme, par exemple, dans la crise de 2008-2009. Par exemple, là, il reste une incertitude sur le marché sur qu'est-ce qui va se passer une fois l'arrêt complet de toutes les mesures gouvernementales et tout ça. Aussi, c'est sûr que le COVID n'a pas influencé l'impact sur les industries était très différent d'une industrie à l'autre. Si on regarde technologie santé, ça a super bien été. Donc, la croissance d'entreprises comme Zoom, qu'on connaissait pas beaucoup avant, qui a connu toute une croissance. Par contre, tout ce qui est hôtelier, entreprises aériennes, arts et divertissements, ça a été plus difficile. Puis le timing de quand que ça va reprendre, c'est encore incertain. Fait que ça nous pose une difficulté là en évaluation puis en transaction. Il y a plus d'incertitudes qu'auparavant. Là.
OK. Je vous pose une question qui est un mélange de santé et de comptabilité. Par exemple, qu'il y a une entreprise où il y a eu une éclosion, où ils ont mal géré la pandémie. Est-ce qu'une fois que, par exemple, dans la prochaine année, ils veulent procéder à la vente de leur entreprise, est-ce que ça va influencer sur le marché le prix de cette entreprise-là, étant donné qu'au niveau gestion, on a peut-être été plus déficient dans la dernière année, Monsieur Lafond?
Oui. Nécessairement, ça va influencer. En fait, Stéphanie pourra parler tantôt en évaluation, qu'est-ce qu'elle fait pour analyser l'année 2020 dans les évaluations. Mais dans le transactionnel, c'est sûr qu'on se remet toujours au jour. Mais la dernière année a été difficile si les liquidités sont moins bonnes, si on a eu des pertes de clients, des pertes d'employés. Donc, c'est sûr que ça a un impact à la baisse sur les valeurs. Au même titre que dans d'autres entreprises, ça a mieux été. Donc, ça a permis justement de favoriser puis d'augmenter le prix de vente.
OK, parfait. Et passons maintenant, mais quasiment à la fin de la discussion. Là, malheureusement, on n'a que 25-30 minutes. On voudrait en faire plus. C'est intéressant quand même de parler de comptabilité. Mais je voulais savoir comment on donne de la valeur à son entreprise. Alors, ce qui veut dire que, par exemple, que moi, j'achète une entreprise, elle est à une certaine valeur. Comment je fais pour augmenter cette valeur-là sur le marché, Madame Labrec?
Oui, il y a plusieurs manières, en fait, là, pour augmenter la valeur. C'est sûr que c'est important d'avoir un plan de croissance dans l'entreprise. Donc, un plan de comment qu'on peut faire croître le chiffre d'affaires d'entreprise, comment qu'on peut faire croître la marge et les flux de trésorerie qui en ressortent. Là. Donc, d'avoir un plan de croissance qui est établi. Ce qui est intéressant par rapport à ça en ce moment, c'est que parfois les entreprises ont bel et bien des plans de croissance, mais la pénurie de main-d'œuvre a pour effet que c'est difficile de les réaliser. Donc, une entreprise peut avoir toutes les infrastructures tout en place pour sa croissance, mais en ce moment, la pénurie de main-d'œuvre, le manque d'employés est un facteur que quasiment toutes les entreprises relèvent et nous disent en ce moment là dans leur faiblesse, malheureusement. Mais sinon, là, c'est sûr qu'on peut accroître la valeur en ayant un plan de croissance pour augmenter là, les bénéfices de l'entreprise. C'est important aussi de regarder l'efficacité opérationnelle, donc ce qui est marge, comment on peut augmenter le pourcentage de marge en fait de l'entreprise. Est-ce qu'on peut améliorer l'efficience des opérations, la productivité? Est-ce qu'il y a des opportunités aussi d'automatisation, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, par exemple, qui peuvent être intéressantes. Donc, il y a tout ça. Puis, finalement, là, puis ça, Jean-Raymond pourra probablement le compléter. Il y a aussi au niveau de diminuer le risque de l'entreprise. Donc, par exemple, une entreprise qui a seulement un ou deux clients principaux, ben c'est important d'essayer de diversifier la base de clients pour diminuer le risque de l'entreprise si demain matin, elle perd un de ses clients principaux. Il y a aussi l'aspect d'un propriétaire, l'actionnaire principal, disons, qui est très, très, très impliqué dans l'entreprise puis que c'est vraiment la personne clé que personne n'est capable de le remplacer dans l'entreprise. Ben à ce moment-là, on dit que c'est un achalandage un peu plus personnel. Donc, la valeur d'entreprise est vraiment basée sur cette personne-là et c'est pas nécessairement transférable dans un contexte de vente d'entreprise à quelqu'un d'autre. C'est pas un achalandage qui est transférable. Donc, ça va être important d'avoir un plan de relève, d'avoir aussi d'autres leaders dans l'entreprise qui peuvent que la personne principale transmette son savoir à d'autres dans l'entreprise pour faire en fait d'un achalandage personnel un achalandage qui est plus commercial, transférable.
Et M. Lafond pourra continuer là-dessus. Par exemple, on a une grosse liste de clients. Est-ce que grosse liste de clients veut dire plus grosse valeur d'entreprise ou ça n'a pas nécessairement une corrélation?
En fait, je te dirais, quelle est la rentabilité de ta liste de clients?
OK.
Tu pourras avoir des clients, puis 20% ne sont pas rentables sur ces clients-là. Donc, ça serait plus payant de te départir de ces clients-là puis de vendre seulement les autres. Tu vas être plus rentable sur tes 80% de clients qui vont rester. Donc, ça, c'est un élément. En complément à Stéphanie aussi, on parlait tout de la gestion de la trésorerie. Donc, tu posais la question, qu'est-ce qui augmentait la valeur? Donc, si on a des inventaires qui ne tournent pas, qui sont trop élevés, donc un acheteur ne paiera pas ça. Donc, réussissez à les écouler, à les vendre avant une transaction. Donc, ça va vous permettre d'augmenter votre valeur totale. La réduction aussi de toutes les dépenses. On a eu une situation avec la pandémie, des entreprises qui ont ralenti. Peut-être qu'on a une personne de trop à l'administration actuellement. Il manque peut-être d'employés dans la shop, mais peut-être qu'à l'administration, on a trop. Donc, si c'est un salaire de 50, 60 000, une valeur d'entreprise, ça va se transiger un multiple des dépenses, un multiple du BAE qu'on mentionnait tantôt. Donc, si c'est 2, 3, 4, peu importe le chiffre, si c'est 50 000 fois 4, c'est 200 000 de valeur comme ça qui vient d'apparaître.
OK, mais c'est intéressant. Mais là, malheureusement, je dois mettre un terme à ce podcast-là. Mais vous nous en avez appris beaucoup aujourd'hui. Même moi, un gars qui est pas ferré en comptabilité, là. Donc, je vous remercie beaucoup. Jean-Raymond Lafont, Stéphanie Labrec. Et je m'excuse tantôt, je vous ai débaptisé. J'ai dit Laberge. Alors, c'est bel et bien Labrec. Donc, voilà, de MNP. Alors, pour tous ceux, évidemment, que ça intéresse le domaine de la comptabilité, les valeurs d'entreprise, vous vous dirigez du côté de MNP. Et je pense que vous serez très bien servi. Donc, je clôrerai, évidemment, là, ce podcast en remerciant Charles, propriétaire de la shop. Très bonne sour, d'ailleurs. Alors, chapeau et merci beaucoup. On est dans leur très beau locaux pour tourner ce podcast. Alors, c'est ce qui met fin à ce quatrième podcast d'Au cœur de la jeune chambre. Je m'appelle Raphaël Pepin et on se retrouve évidemment pour le cinquième podcast.
Au cœur de la jeune chambre de la Mauricie.